Merci. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue. Bienvenue Laurent Binet.
Merci, bonsoir.
Merci d'être là. En guise d'introduction, Le Monde, daté du vendredi 28 mars 1980, car avec Le Monde, c'est toujours déjà demain, a fait sa une sur le budget anti-inflationniste de Thatcher, qui prévoit, ô surprise, une réduction des dépenses publiques, et sur la guerre civile au Tchad, mais a tout de même mentionné la mort de Barthes en première page, en bas à droite. L'hommage du célèbre journaliste littéraire Bertrand Paolo Delpech commence par cette phrase: depuis juste 20 ans que Camus a rendu l'âme dans une boîte à gants, la littérature aura payé à la déesse chromée un tribut un peu rude. Simon relit plusieurs fois la phrase et jette un œil dans la salle. Ce qui pourrait être anecdotique ne l'est pas, parce que effectivement, j'ai retrouvé par hasard, en refouillant mes notes et en reparcourant les livres de Laurent, et souvent le hasard fait sens, car dans le cadre du festival Effraction, qui a majoritairement lieu au forum en bas, à Beaubourg, il nous aurait été cruel de ne pas prendre parole à un moment, de ne pas partager la littérature dans ces lieux qui ne sont pas normalement faits pour et qui ne sont pas des scènes. Et en particulier dans celui-ci, la salle de presse. Pourquoi? Alors, vous l'avez entendu, ce passage-là fait écho. Je disais, ça pourrait être anecdotique. Et en même temps, j'aurais pu en trouver d'autres, parce que j'en ai retrouvé d'autres dans HHHH aussi. Dans le travail historique du romancier Laurent Binet, je ne vais pas vous faire longuement l'article à son sujet, puisqu'on n'a que 3 quarts d'heure et on fait revue de presse. Mais tout de même, 3 romans chez Grasset qui ont tous marqué, plus un reportage embedded qui s'appelait Rien ne se passe comme prévu, au sein de la campagne présidentielle de François Hollande en 2012. Donc 3 romans qui sont... Sont-ils des romans historiques? En tout cas, ce sont des romans avec de l'histoire, avec un grand H, où l'histoire est leur matière, et leur forme aussi, et leur question centrale. L'histoire et le romanesque. Et ça, dès HHHH, en 2010, la position du narrateur qui relate est interrogée au cœur de la fiction. Laurent Binet s'inscrit plutôt, se dit-on, dans du long terme, dans une consultation, se dit-on, d'archives, ce qui est certainement le cas. Et pour autant, il y avait une première disjonction qui, moi, m'intéressait, c'est de suivre Laurent, comme d'autres auteurs, sur les réseaux sociaux, où certains écrivains font la promo de leurs livres, d'autres montrent des photos de leurs enfants, enfin, chacun y fait ce qu'il veut. Et Laurent intervient beaucoup sur l'actualité, de façon plus frontale, et évidemment pas au même degré que dans les romans. C'est-à-dire, constatation, qu'il s'en nourrit, qu'il la consomme et qu'elle le fait réagir, et que donc ce rapport à l'information quotidienne, celui de la presse papier qu'on vient consulter ici, et bien évidemment ses prolongements numériques, le concernent aussi. La question de cette revue de presse, elle est à la fois très horizontale, c'est-à-dire que là, je prends la parole au début, je vais évidemment la laisser à mon invité bientôt, mais également à vous, hein, c'est-à-dire je ne m'entends pas la monopoliser, on n'est pas du tout dans un mode conférence, mais très horizontal, donc si vous avez quelque chose à dire pour ou contre un titre, ou en accord ou désaccord avec Laurent, allez-y aussi pendant les 3 quarts d'heure qu'on a ensemble. La question du rapport à l'information pour les écrivains romanciers me semblait aussi un des angles de cette question des rapports entre la littérature et le réel qu'explore notre festival. Tout simplement parce que les journaux nous environnent, enfin il y en a plein ici, l'information textuelle et pas seulement nous environne, voire nous assaille. Et dans chaque titre de journal, il y a au moins 2 choses. On est sur les différents degrés du langage de Barthes aussi, mais il y a au moins 2 choses, une information et son traitement. Et tout simplement de poser cette question-là à un romancier dont le travail se nourrit également d'archives, donc d'archives textuelles de l'époque et a posteriori, me semble une mine de questions à propos du travail de la littérature. Je commencerai tout simplement comme ça. Après, ça ne vous empêche pas de tirer les fils dans le sens que vous voulez, en vous demandant très très simplement, très concrètement, à l'heure actuelle, Laurent, quel rapport avez-vous avec la presse, papier ou pas? Et peut-être comment a-t-il évolué au fil du temps aussi?
Ouais. Alors mon rapport à la presse est ancien et comment dire opère à plusieurs niveaux. Mais enfin, disons à un premier niveau de lecteur, citoyen, consommateur. J'ai une longue histoire qui a commencé, enfin qui a commencé il y a longtemps par l'héritage de mon père qui était un très très gros consommateur de journaux. Et donc moi aussi je le suis devenu d'abord avec des illustrés et puis avec ensuite avec un pic qui a été, je sais plus, peut-être dans les années 90 où j'achetais 3-4 journaux par jour. Avec le mercredi, le Canard enchaîné, Charlie Hebdo, etc., etc. Et puis, c'est-à-dire comme nous tous, hein, je suis un produit de mon temps. Ma consommation a décliné avec l'apparition d'Internet et s'est réduite à hauteur de inversement à une hauteur inversement proportionnelle à ma consommation des réseaux sociaux aujourd'hui, puisque c'est vrai que aujourd'hui j'utilise Twitter, en gros, comme une espèce d'agence de presse personnalisée ou d'agence de presse un peu sur mesure, puisque je décide les gens que je suis. Et du coup, c'est vrai que là, je suis frappé. Donc, j'ai pas lu la presse du jour. Je suis frappé par cette
Il y a
double
quelques
une.
jours celui-là, mais c'est assez récent.
C'est celui d'hier, donc mercredi, face au séparatisme, le prêcheur républicain. Et j'étais même pas au courant. Donc je vois que Le Monde et Libé font les deux unes sur le même sujet. Donc ça me dit quelque chose quand même. J'ai vu passer sur Twitter cette information, mais j'ai pas cliqué. Et du coup, je découvre. Enfin, ce qui me saute aux yeux, c'est le monde parallèle, enfin les mondes parallèles dans lesquels tout un chacun vit, puisque. Pour moi, depuis plusieurs mois et depuis peut-être même, bon, en fait, depuis oui, même un peu plus que ça, mais enfin, en tout cas, depuis plusieurs mois, l'actualité, c'est pas exactement cette question bon, si j'ai bien compris, hein, derrière le séparatisme, il parle de l'islamisme dans les banlieues, qui est un problème qui existe, hein, je le nie pas du tout, mais. Si on parle d'actualité, il me semble que en ce moment, c'est pas ça, en tout cas, c'est pas ça qui m'intéresse. Et donc. Ce qui m'intéresse dans ces deux unes, en fait, c'est ce qui manque, c'est ce dont on ne parle pas. Enfin, sans vouloir faire comment dire, dans une forme de complotisme de canard enchaîné, je pense que là, Macron a décidé que cette semaine, ce serait son sujet, le séparatisme, pour ne pas parler d'autre chose, des problèmes sociaux et de la réforme des retraites dans lesquels il est englué depuis longtemps. Et donc, ce qui m'embête et ce qui fait que mon amour pour la presse a décru, c'est que, en fait, enfin, c'est que, en fait, la presse reprend ce que Macron lui dicte, en fait. C'est-à-dire que là, c'est Macron qui a décidé que cette semaine. Pourquoi cette semaine et pas une autre? L'islamisme en banlieue, ok, c'est un sujet, c'est un vrai sujet, mais pourquoi cette semaine et pas une autre? C'est lui qui a décidé que cette semaine et pas une autre, et sans vouloir faire trop de parano, c'est probablement une stratégie de diversion dans laquelle tombe la presse. Donc ça, c'est quand même, bon, ça me paraît un peu embêtant, et c'est pour ça que donc aujourd'hui, le seul quotidien papier, je ne suis pas fier, hein, mais je vous l'avoue, puisque c'est le seul quotidien papier que je continue à acheter aujourd'hui, c'est L'Équipe, parce qu'en fait, ça me repose, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qui est bien avec L'Équipe, c'est que dans le sport, les gens, les journalistes, les acteurs du sport parlent avec autant de passion que dans la politique ou dans tout autre domaine. Sauf que la différence, c'est que ça n'a aucun enjeu, absolument aucun. C'est-à-dire que si PSG bat Dortmund ou perd contre Dortmund, ça ne change strictement rien à personne, en fait. Et donc, d'une certaine manière, ça me repose comment dire, de mes énervements continus qui sont alimentés par les réseaux sociaux, voilà, par les nouvelles et puis les réactions aux nouvelles de gens que je connais ou de gens que je ne connais pas, quoi.
Et en même temps, si je cherchais la petite bête, l'équipe, dans un tout autre domaine, me semble-t-il, évolue aussi. Enfin, vers un rapport élément de langage. Enfin, en les cherchant dans les rayons tout à l'heure, j'ai eu du mal à ne pas en trouver un qui soit pas consacré en une au PSG. Alors moi, je suis pas parisien et j'ai rien contre, et je parle pas en tant que supporter ou pas supporter, mais je trouve ça remarquable aussi. Et je sais que des amis fans de foot, ça les, et à Lyon par exemple, ça les met en colère. Enfin, c'est PSG Magazine, et ça aussi, ça dit quelque chose. Par ailleurs, qui vous intéresse aussi sur les pouvoirs de l'argent autour de l'information, y compris sur ce seul quotidien sportif séculaire français.
Oui, absolument. Mais c'est-à-dire, évidemment, que si on creuse, il y a toute une économie et une politique derrière le sport, et que le PSG, c'est le Qatar, etc., etc. Mais que le Qatar rachète le PSG ou Lyon, en fait, ça ne change rien. Mis à part une espèce de truc, comment dire, un petit peu archaïque dans notre cerveau de supporter, qui fait que selon qu'on est parisien ou lyonnais, peut-être on percevra les choses différemment. Mais au fond, si vous voulez, ça m'a toujours frappé. Donc les grands moments de bah, je crois qu'on peut, enfin disons. Je voudrais employer un terme plus neutre que hystérie, mais enfin bon, le sport génère des moments engendre des moments d'hystérie collective. Sachant que à l'arrivée, moi ça m'a toujours et auquel je participe hein, aussi, disons bon voilà, mais ça m'a frappé à quel point bon le match se termine, on est déçu, on est content, mais ça me frappe toujours les soirs de déception si vous voulez, on est déçu et puis au bout de 5 minutes, je me dis il y a toujours un moment où je me dis mais enfin bon, ça ne change absolument rien à personne, à moi le premier, mais à personne. Et on s'en fout, en fait. Et du coup, c'est toujours un petit... c'est-à-dire, c'est assez agréable, un domaine où les déceptions ne sont pas des blessures, en fait, réelles. C'est tout ça, c'est une espèce de comédie à laquelle on se prête. Ensuite, bien sûr que le fait que les pétromonarchies investissent, etc., etc., dans les clubs de foot, les plus grands clubs de foot européens et du monde, ça dit quelque chose sur l'évolution de la géopolitique du monde, bien sûr. Mais c'est un autre problème. C'est-à-dire, et en général, c'est pas tellement de ça dont parle l'équipe. Un peu, hein, de temps en temps.
Et alors donc, en essayant de le considérer d'un point de vue pratique et horizontal aussi. Dans le travail quotidien de l'écriture, qui est évidemment entrecoupé, les chantiers ne sont pas forcément permanents, mais quand même à un moment, notamment qu'il s'agisse du livre à propos de Roland Barthes et qu'il s'agisse du dernier, Civilizations, qui est une... j'arrive jamais à bien le dire en anglais, mais j'essaie. Civilisation. Merci de cette autorisation, qui est une uchronie, donc quelque chose qui tire des hypothèses fictives, mais extrêmement documentées. Donc on en parlera en détail dimanche lors du grand entretien. En tout cas, ce sont des travaux de documentation sur un temps long, d'imprégnation aussi. Quel rapport, quelle disjonction, quelle perturbation, et voire aussi quel rebond fertile, parce que ça peut tout à fait arriver, se produisent entre les deux chambres d'écho, quoi. Enfin, celle du rapport aux archives, du rapport au temps long de l'écriture du roman et puis au temps long de la constitution de l'histoire, et celui de cette instantanéité de Twitter notamment. Il y a les réseaux sociaux dans leur ensemble, puis il y a un truc spécifique à Twitter en termes de réactivité, quoi.
Ouais, alors moi, l'une de mes caractéristiques, si on se fonde sur les trois romans que j'ai publiés, puisqu'il n'y en a pas plus, c'est que je fais pas de... Je fais pas de roman, thématique fondé sur l'actualité. C'est-à-dire, je vais pas faire un roman sur les bébés congelés ou je vais pas faire un roman sur tel ou tel fait divers. Donc, le lien avec l'actualité, mon lien avec l'actualité, il est forcément indirect, mais malgré tout, il est inévitable puisque on peut pas s'affranchir de d'où on est, du contexte dans lequel on évolue, des problématiques qui sont celles de notre présent. Donc forcément, elles se retrouvent d'une façon ou d'une autre. Et donc, par exemple, j'ai un peu réfléchi à Civilisation. C'est une question qu'on a beaucoup posée. Alors, comment vous est venue l'idée, etc., etc. Et en général, j'explique que c'est parce que j'étais invité à un salon du livre de Lima et que je me suis intéressé donc aux précolombiens, à la conquête espagnole, etc., etc. Mais si on veut aller au bout des choses, il y a quand même un lien avec l'actualité, puisque L'idée n'est pas venue après le Salon du Livre de Lima, mais à mon retour, quand voilà, je m'intéressais, je lisais des choses sur la conquête espagnole, sur ses précolombiens, sur les Incas, etc. Et puis quelqu'un me met dans la main un livre de Jared Diamond qui s'appelle « De l'inégalité parmi les sociétés », qui est plus connu enfin, pour, sous son nom anglais « Guns, Germs and Steel ». Et dans lequel, voilà, dans lequel, en gros, il y a l'idée du bouquin, hein, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est Pizarro qui va attraper, qui va capturer Atahualpa au Pérou et pas Atahualpa qui va capturer Charles Quint en Europe. Bon, voilà, donc ça, ça me donne l'idée du livre. Mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que ce livre se retrouve dans mes mains. Donc voilà, c'est quelqu'un qui me le dit, tiens, bah, j'ai vu que tu t'intéressais, il me le donne, tiens, ça parle d'Atahualpa, des Incas, ok, ok. Mais qui est l'auteur de Jared Diamond ? Jared Diamond, il est connu parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Effondrement. Et donc, il est d'autant plus à la mode depuis 2-3 ans que l'inquiétude climatique fait que, bon, ben voilà, c'est-à-dire on est tous dans une période un peu, enfin voilà, on sent la catastrophe arriver, on est tous très inquiets. Et donc, un bouquin qui s'appelle Effondrement, donc, ce que je veux dire, c'est que cette actualité du changement climatique, indirectement, vous voyez, hein, il y a plusieurs étapes, fait que j'écris Civilisation. Donc, ça, mais alors ça, c'est au niveau de l'opportunité, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est voilà, c'est cet enchaînement de circonstances qui fait que bah, je me retrouve avec Jared Diamond dans les mains parce que blablabla, tout ce que je viens de vous expliquer, etc. D'une part. D'autre part, je pense aussi que si j'ai envie d'écrire une uchronie et si ça s'était passé autrement et si les Indiens ont envahi l'Europe et si les Indiens avaient envahi l'Europe à la place de bon voilà l'histoire qu'on connaît, c'est aussi parce que c'est pas juste parce que je lis des articles sur le changement climatique, c'est parce que moi, comme d'autres gens, hein, donc moi parmi beaucoup d'entre nous, j'ai cette, comment dire, je suis sensible à ce climat anxiogène qui me fait penser que là, on va quand même dans le mur au niveau en gros, bon, pour la faire courte, que le capitalisme va avoir notre peau. C'est-à-dire que là, bon, ça fait, on est entré, enfin, que peut-être, hein, c'est peut-être, on est entré dans la phase terminale du capitalisme et que le capitalisme va mourir, mais va tous nous emporter avec lui. Et donc, évidemment, ça génère une anxiété et un besoin de chercher des échappatoires, des portes de sortie. Et donc, certains peuvent écrire, je sais pas moi, des essais ou alors des trucs de science-fiction ou des dystopies pour dire attention, etc., etc. Et moi, la modalité, le résultat de cette anxiété a été d'écrire cet objet un peu ambivalent en termes d'optimisme et de pessimisme, qui est une uchronie, genre et si ça s'était passé autrement, c'est-à-dire. Et si, donc, sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire, si les Incas avaient envahi l'Europe, au moment même où l'Europe, en Europe, est en train de naître et de se développer le capitalisme, les Incas, qui arrivent avec eux, une espèce de système un petit peu, enfin, très original, même pour l'époque, un peu proto-socialiste, un peu bizarre, alors l'histoire aurait été autre et on ne sait pas où on serait, mais en tout cas, on ne serait probablement pas dans cette espèce de phase terminale dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, c'est probablement une espèce de une façon de chercher une autre voie, mais avec cette ambiguïté que c'est pas une autre voie pour maintenant, c'est une autre voie dans le passé. Donc c'est une autre voie dans le passé. Le passé, c'est fait. Les Incas, bon, ils sont tous morts, et donc ça n'arrivera pas. Vous voyez, donc c'est à la fois, mais quand même, l'idée du livre aussi, c'est de montrer que l'histoire, finalement, tient pas à grand-chose, quand même. Ça, hein, l'idée de départ, c'est que si une poignée de vikings, en l'an 1000, descend vers le sud, au lieu de faire un aller-retour est-ouest au Canada et revient au Groenland, alors, de fil en aiguille, par un espèce d'effet papillon bon, que je développe dans le livre, toute l'histoire du monde peut en être bouleversée. Et donc, ça, probablement, donc il y a une forme de mélancolie dans mon histoire qui est que, bah oui, tiens, voilà, j'aurais bien aimé que les Indiens gagnent, mais ça n'est pas arrivé. Mais il y a aussi peut-être une note un petit peu d'espérance dans l'idée que si ça ne tient pas à grand-chose, alors peut-être que tout n'est pas foutu, quoi. Voilà.
Je repense à. Vous avez évoqué le complotisme. Et du coup, je repense à la septième fonction du langage, qui joue aussi avec le complotisme, c'est-à-dire qu'il y a une société secrète à un moment clé du livre, qui devient en plus assez, assez farcesque. Enfin voilà, il faut ne pas spoiler ce qui arrive à Philippe Soler, ce personnage réel, voilà, parce que ce serait dommage. Et, Et j'ai envie d'essayer de creuser ce rapport-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toute une subtilité à voir à cet endroit-là. C'est pour ça aussi que le complotisme, il est mis en boîte et mis en scène dans ce livre-là, je pense. Parce qu'en même temps, quand on regarde la une de Libé qu'on regardait tout à l'heure, comme vous l'avez dit, sans être complotiste, on ne peut que voir là une fiction. Et j'aimerais formuler ça en question, c'est-à-dire le rapport entre ces choses-là, entre l'indignation, l'énervement, et celui-là, je le lis sur les réseaux sociaux, dans vos statuts tous les jours, y compris sur Facebook, de reprendre une avec trois mots de commentaire, mais qui la déboîte, quoi. Comment ne pas verser, justement, dans la fiction complotiste, qui est aussi une fiction de croyance, finalement, enfin, tout aussi. Est-ce que là, il n'y a pas un rapport qui se fait, j'invente ma question en direct, hein, excusez si elle n'est pas claire, est-ce qu'il n'y a pas un rapport d'intelligibilité du monde qui se fait, c'est-à-dire de construction, comme dans les romans historiques, de décryptage? De décryptage dans les deux sens, il n'y a pas dans un sens complotiste, mais plus subtil que ça, mais d'essayer de démonter la mise en scène du dominant, du pouvoir dominant par le langage et notamment par la presse en partie. En partie vassale, qui trouve sa réponse, certes, dans l'éruption sur les réseaux sociaux, mais en même temps, elle est mise en forme aussi, même si c'est en quelques mots, hein, l'éditorialiser, quand vous le faites. Et puis, en tant que personnage public, du coup, vous savez que vous parlez en tant qu'éditorialiste à cet endroit-là. Et puis, de façon plus longue, dans les livres, quand même. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas, dans différentes acceptions, une tentative sans cesse de décryptage de ou des fictions du monde telles qu'elles nous ont été racontées, telles qu'elles nous sont racontées au quotidien.
Ouais, alors, en effet, votre question était un petit peu compliquée. Bon, mais je vais répondre quelque chose.
Décryptage plutôt que complotisme. Hein, et en fait, dans les deux temps, pour le résumer, j'ai mis du temps à
Alors,
l'élaborer.
donc.
Dans l'immédiateté et puis dans le travail long, encore une fois.
Ouais. Mais donc, je crois que enfin, dans les deux cas, dans l'immédiateté, dans le travail long, de toute façon, enfin, on est des. Enfin, nous, nous aujourd'hui, et peut-être d'ailleurs depuis assez longtemps quand même, on est tous des machines à décrypter. Mais c'est-à-dire, je pense, de plus en plus performantes. Mais enfin, si vous voulez, c'est toujours un peu le gendarme et le voleur. On est de plus en plus performants pour décrypter, mais du coup, les machines à manipuler donc sont aussi évoluent et deviennent elles-mêmes de plus en plus performantes. Et donc, il y a cette espèce de course-poursuite entre manipulation et décryptage. Pour ce qui est du complotisme proprement dit aussi, bon, je dirais que ça, c'est. Bon, enfin, les pièges sont partout. Hein, je veux dire, les pièges sont partout. Et l'idée même du complotisme est un piège parce que, comme disait l'autre, hein, c'est pas parce que je suis paranoïaque que tout le monde en a pas après moi. voyez bon, moi par exemple, je pense que mon degré de complotisme est assez bas puisque je pense que Lee Harvey Oswald a tué JFK. Voilà. Bon. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire que les complots n'existent pas. Il y en a des complots. Simplement, enfin, notre discernement doit, dans cette forêt de propositions, ça c'est un complot, ça c'est un complot, ça c'est un complot, de repérer lesquels sont les bons et sous quelle forme. Je pense, moi, par exemple, que il y a un complot en ce moment politique pour dézinguer tout le système social français. Voilà, je veux dire, si vous voulez. Il y a une association de malfaiteurs qui est au travail journellement et dont les voilà et qui nous explique enfin voilà, c'est-à-dire c'est une forme de complot si vous voulez. Voilà, bon, donc décryptage, discernement, ça c'est un premier point, c'est-à-dire que c'est notre travail tous les quotidien à tous, hein, citoyens. Enfin, ensuite, en termes de, alors, de créativité, ça, c'est ça l'autre volet. Hein, c'est-à-dire, comment est-ce que ça peut inspirer bon, ben, moi, je crois que, enfin, toute idée consiste toujours à faire des ponts, si vous voulez. C'est-à-dire, une idée, c'est créer un lien entre deux choses qui avant qu'on essaie. Si c'est une idée originale, c'est rapprocher deux choses qui avaient l'air hétérogènes à la base ou auxquelles on n'avait pas pensé. Alors, si c'est une idée qu'on n'avait pas eue et qu'on a, moi, j'y avais pas pensé. Si c'est une idée originale, si c'est une idée nouvelle, c'est que personne n'avait pensé à faire ce lien entre ces deux choses. Et ça, je crois que ça a un lien avec la création littéraire, parce que la création littéraire, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle en analyse littéraire le mélange des genres, si vous voulez. C'est-à-dire, je repensais là, avant de venir, à un article que j'avais écrit sur Bret Easton Ellis, l'auteur d'American Psycho, qui est mon écrivain vivant préféré, et je rate jamais une occasion de le dire et de le redire, parce que voilà, j'admire beaucoup cet auteur. Et j'avais écrit un article où je m'étais amusé à faire Bret Easton Ellis, c'est ça plus ça. Et puis c'est ça plus ça, et puis c'est ça plus ça. Et alors j'ai pas réussi à le retrouver, donc je me souviens plus exactement ce que j'avais raconté. Mais en gros, l'idée c'était de dire c'est Shakespeare plus Dexter, ou c'est l'illusion comique plus Beverly Hills, ou c'est voilà. Et donc l'absolue nouveauté de Bret Easton Ellis. Alors c'est mes exemples sont un petit peu, c'était pas exactement cela, mais enfin vous voyez l'idée. L'absolue nouveauté de Bret Easton Ellis aura été un moment de rapprocher l'illusion comique de Corneille avec Beverly Hills, la série de TF1, ou je ne sais plus quoi, de Shakespeare, avec la série Dexter, etc. etc. Et donc d'une certaine manière, en fait, le processus mental n'est pas tellement différent pour créer ou pour décrypter. C'est-à-dire, c'est toujours faire des ponts. Par exemple, là, ça m'a frappé. L'extrait de mon livre, La septième fonction du langage, que vous avez lu en introduction, j'avais oublié donc que, en effet, le jour de la mort de Barthes, il y avait un titre sur la réduction de, Margaret Thatcher qui prenait.
Si je leur prenais la phrase, ça pourrait être, un statut Facebook de vous de la semaine dernière, quasiment. Enfin, dans un contexte actuel, c'est là où.
Voilà, exactement. Alors ça, peut-être je déplace un peu ma réponse à votre question, mais ça, pour moi, ça correspond à une croyance que j'ai dans le structuralisme, en fait, le structuralisme comme façon de décrypter, de comprendre, comme mode de compréhension du monde. C'est-à-dire que, au-delà de Macron, il a dit ça, il a fait ça, etc. L'idée du structuralisme, c'est qu'il y a des invariants, il y a des choses qui changent pas, et il y a des combinatoires. C'est-à-dire, on a des trucs structurels, si vous voulez. Et donc structurellement, il y a cette figure d'homme politique dont la fonction à peu près unique, quoi qu'ils disent par ailleurs, est réduire l'intervention de l'État. Et donc ça veut dire que ces invariants-là, ensuite, on va leur changer de visage et de nom, mais Thatcher, il y a un invariant Thatcher qui peut se décliner sous la forme de Macron ou de telle ou telle figure politique. Et inversement, pour moi, là, il y a un invariant de l'homme politique de gauche qui peut se décliner sous forme de Mélenchon, Corbyn, Sanders. Et je vois bien les gens qui s'étripent sur Facebook, et d'ailleurs moi je prends ma part aussi pour dire ah oui mais non, mais alors Corbyn il est antisémite, mais alors Sanders ça va, mais alors Mélenchon ah oui mais il est et ces invariants là et je vois bien que s'opèrent des trucs, si vous voulez. Par exemple là, l'exemple que je prends, c'est très intéressant, l'exemple de, je pense qu'il y a, quelque chose qui revient toujours, c'est que quand en gros les dominants économiques sont confrontés à une menace à gauche, il y a toujours à un moment l'accusation d'antisémitisme qui revient. Et là, ça a été quand même extraordinaire, parce que donc Corbyn, c'est celui qui a été le plus frappé par cette accusation, mais Mélenchon aussi. Et alors, ce qui a été très très fort, c'est que c'est tellement, vous voyez, c'est ça pour moi, le raisonner en termes de structuralisme, Parce que c'est ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des réactions qui sont structurelles. C'est-à-dire que structurellement, c'est tellement systématique qu'un candidat de gauche qui menace, en gros, les intérêts du capital, hein, pour aller vite, un peu à la louche, à un moment va se faire taxer d'antisémitisme. Et ce qui est génial, c'est que ça ne manque pas avec Sanders, qui est juif. Et Sanders a été accusé d'être antisémite malgré tout. Et donc là, moi, je vois quand même, c'est-à-dire là, je ne vois pas Sanders, je ne vois pas Mélenchon, je ne vois pas Corbyn, je vois des grandes structures qui sont à l'œuvre. Un autre exemple, j'étais...
D'ailleurs, à l'inverse, mais dans le même sens, moi, j'ai été assez surpris pour le coup, des défenses directes de mettons, Finkielkraut et BHL, de Yann Moix, qui a été pris, lui, enfin, la grande élite d'antisémitisme bien plus avérée, me semble-t-il, même si passé de quelques années, enfin, c'était vraiment de l'ordure pamphlétaire, et il a été racheté par... Donc deux types qui me semblent des agents opérants de ça.
C'est-à-dire exactement. C'est-à-dire qu'on voit bien que le fond du problème, c'est pas l'antisémitisme, puisque pour moi que ça va. L'autre exemple auquel je pensais, c'est juste une petite anecdote là. Je sais pas si ça a un rapport avec la discussion, mais je vous la raconte quand même parce que j'ai envie. Là, je discutais avec mon père. Je sais pas pourquoi, on regardait un documentaire sur Arte, sur l'Égypte ancienne, les pharaons. Et puis donc, de fil en aiguille, il commence à me raconter l'histoire du barrage d'Assouan construit par Nasser. Je le laisse parler. Je me dis, ça doit être intéressant, mais peut-être pas passionnant. Et en fait, il me raconte le truc et c'est une série Netflix. C'est bon. Je vous la raconte. Et puis après, je vous dis pourquoi le rapport ténu qu'il y a avec tout ce que je viens de vous dire. Nasser décide d'entreprendre cette entreprise pharaonique, hein, c'est le cas de le dire, qui est le barrage d'Assouan. Et donc, pour financer le barrage d'Assouan, qu'est-ce qu'il fait ? Il nationalise le canal de Suez. Et donc, qu'est-ce que font la France et l'Angleterre ? Eh ben, elles font la gueule. Et donc, elle demande à Israël d'attaquer l'Égypte pour pouvoir arriver et se poser en juge de paix et dire « Bon, ok, calmez-vous les enfants. » Et puis, au passage, récupérer le barrage de Suez. Le barrage de Suez. Sauf que là, à ce moment-là, les Russes, les Soviétiques, disent aux Anglais et aux Français « On se calme, sinon, nous, on vous envoie une bombe nucléaire sur Paris et Londres. » Alors, évidemment, ça donne à réfléchir. Ils se tournent vers les Américains, et les Américains qui, leur but depuis au moins 45, mais en fait depuis le début du XXe siècle, c'est de prendre la place des anciennes puissances coloniales. Ils leur disent « démerdez-vous ». Du coup, Nasser garde. Bon, voilà. Donc du coup, ce barrage d'Assouan là, qui avait l'air un petit peu, c'est. Et alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Donc parce que j'avais envie de vous raconter cette future série Netflix. Mais parce que à l'époque, mon père me rappelle que les titres dans la presse française, anglaise aussi, j'imagine, c'était Nasser le nouvel Hitler. Je trouve ça. Vous voyez, ça marche tout le temps en fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un, un homme politique, un chef d'État, menace les intérêts du capital, alors, de toute façon, on sait que jusqu'à quand, je ne sais pas, mais enfin, depuis 1945 et jusqu'à aujourd'hui, ce sera forcément le nouvel Hitler, il sera forcément accusé d'être antisémite, etc., etc., etc. Oui, alors, le point Godwin, je ne peux pas critiquer le point Godwin, parce que moi-même, je suis un fervent adepte du point Godwin, et il ne faut pas me chercher très longtemps pour que je fasse un parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale. Mais ensuite, ça dépend pour quoi faire, si vous voulez.
Quand on a discuté pour préparer, vous m'avez aussi renvoyé un article que vous veniez de partager sur les réseaux sociaux, en guise d'exemple de vos pratiques. Et ça me permet, d'ailleurs on arrive vers la fin du temps bientôt, et comme là vous avez parlé des États-Unis et non pas en tant que complotiste mais que projet impérialiste, l'article était un article du Nouvel Obs d'il y a forcément 3 ou 4 ans, du web donc, qu'on peut republier. Ce qu'on fait, on peut publier une archive sur Facebook et des fois ça peut autant d'ailleurs induire en erreur, je vois souvent des gens qui s'exclament à juste titre, mais pour des choses qui ne viennent pas de se passer. Donc là, on a le problème qu'on reproche régulièrement au réseau d'imprécisions, mais ça peut aussi ramener à la surface des choses qui sont pertinentes, c'est-à-dire l'article en question traitait de ce très beau livre d'Éric Vuillard qui s'appelle Tristesse de la Terre, et qui est effectivement un peu comme le travail de Vuillard, et c'est peut-être aussi pour vous glisser dans ces traces-là, parce que son travail est intéressant dans la manière dont les deux choses résonnent, c'est-à-dire que pour lui avoir déjà posé la question... C'est pas seulement le passé qui nous éclaire sur le présent, il le disait l'année dernière au moment des Gilets jaunes, c'est-à-dire que le présent informe différemment le passé qu'il revisite.
Oui, il disait ça à propos du livre qu'il a sorti l'année dernière, la guerre des pauvres, sur la révolte des paysans au XVIe siècle, en 1525, 24 à 26. Et bon, voilà, il le sort, il l'avait en stock, c'est-à-dire il avait commencé ce livre avant les Gilets jaunes, mais il a décidé que il avait ça en stock et que c'était le bon moment pour. Donc c'est une démarche qui est un petit peu différente de la mienne, mais c'est quand même assez amusant parce que dans Civilisation, la guerre des paysans joue un rôle et je me suis intéressé avant aussi. Bon, c'est toujours ensuite compliqué de. Alors, ça fait pas du tout de. Ouais, je me sens pas du tout visionnaire ou quoi que ce soit, hein, mais c'est toujours compliqué de démêler le est-ce que dans la société il y avait en germe un truc. Enfin, c'est en tout cas amusant que et en plus, d'autant plus que j'adore Éric Vuillard, j'ai beaucoup d'admiration pour cet écrivain. Mais quand j'ai sorti Civilisation, il a sorti Conquistador il y a des années de ça, donc c'est sur vraiment l'histoire de la conquête des Incas par Pizarro. Et puis, donc moi, je termine Civilisation et je vois qu'il sort la guerre des pauvres sur la révolte des paysans dont je parle dans mon livre. Je ne savais pas du tout qu'il travaillait là-dessus. Bon, j'imagine qu'il y a... de même que ce que je vous disais au début, là, on m'a beaucoup associé en début de rentrée littéraire à Leonora Miano, qui, elle, a fait... c'est pas exactement une uchronie, parce que c'est pas elle ne revisite pas le passé, c'est... C'est presque de la science-fiction. Enfin, elle imagine que elle renverse les flux migratoires. En fait, elle imagine que les migrants viennent d'Europe se réfugier en Afrique. Le fait qu'il y ait des thèmes communs chez des écrivains ou des procédés, des procédés communs, que l'uchronie, alors la dystopie, la science-fiction soit plus à la mode peut-être aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans où l'autofiction régnait en maître, probablement dit quelque chose sur l'époque et ce que je vous disais au début, hein, c'est-à-dire dit une inquiétude à l'échelle globale et pas juste à l'échelle intime et des recherches de portes de sortie, de solutions, d'idées, c'est-à-dire une envie de refaire l'histoire parce que là on sent que parce que la catastrophe se rapproche, quoi. Enfin, en tout cas, c'est notre sentiment. Hein. On verra ce que.
C'est une petite affichette sur une librairie anglaise qui dit le rayon dystopie est passé au rayon affaires courantes, en fait.
Voilà.
où la littérature de l'hyper réel rejoint celle de l'anticipation. Merci Laurent. J'avais dit dès le départ que je souhaitais vous livrer la parole si vous le vouliez. Il nous reste 4 minutes. Donc, si une question émerge, si vous en avez une, n'hésitez pas, sachant qu'il nous reste quelques minutes seulement et que Effraction continue. Madame.
Alors, en tout cas, il y a certes une crise des médias à l'heure actuelle, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est cette hostilité, enfin cette concurrence. En fait, il y a concurrence entre réseaux sociaux et médias, et les deux modes de d'information, de communication ont leurs avantages et leurs défauts. Bon, moi, je veux pas, je serais peut-être un peu moins sévère que vous envers les médias traditionnels ou mainstream, mais en tout cas, cette concurrence-là prend la forme d'une, se manifeste de façon très agressive. Du côté de votre côté, si pour aller vite, mais en tout cas du côté des réseaux sociaux, mais inversement, on voit on voit à quel point les médias traditionnels se sentent menacés dans aussi l'agressivité avec laquelle ils reviennent sur le sujet des réseaux sociaux et où on voit quand même beaucoup de journalistes qui fantasment sur des régulations, des régulations des réseaux sociaux qui confineraient à la censure quand même l'affaire Griveaux, c'était assez amusant quand même de voir la récupération opportuniste par les médias traditionnels de l'affaire Griveaux, qui se sont focalisés sur un point, l'exigence de l'anonymat dans les réseaux sociaux, alors que dans cette affaire, l'anonymat à aucun moment n'entre en jeu, en fait, puisque... on connaît l'identité de tous les protagonistes. Donc mais ça, ce serait un débat encore très 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 vaste, quoi. C'est le thème de la rencontre. Dimanche, je reviens et je reviendrai à un schéma plus traditionnel. Mais là, c'était censé être la revue de presse. Donc c'est pour ça que. Ça, et puis moi, ça m'a changé. C'est vrai que là, depuis septembre. J'en ai fait 50. Du coup, je parle d'autre chose. Mais je crois que les écrivains parlent toujours quand même de littérature, mais c'est pas incompatible.
Ça me permet du coup de faire l'article, un peu de publicité sur le festival. Effectivement, la revue de presse, on l'a proposé en plus à certains auteurs qui viennent également à un moment parler de leur travail littéraire. Il n'était pas question de l'éluder. Donc là, je m'en suis servi comme accroche. Et puis effectivement... essayer de questionner Laurent sur ce rapport à l'information, hein, qui du coup, me nourrit aussi d'avance pour l'échange qu'on aura dimanche à propos des livres. Mais revenez dimanche à 16h pour qu'on s'entretienne assez longuement sur les romans et le rapport à l'histoire et à la fiction des romans de Laurent. Je précise aussi comme rendez-vous que demain soir, il y a aussi une petite revue de presse avec Sylvain Patieu, qui est également un auteur dont on interrogera l'œuvre littéraire plus précisément à un autre moment. Merci beaucoup Laurent.
Merci.
Merci de votre attention et de votre participation, d'avoir été là. Au début c'était clairsemé, puis finalement il y en avait même assis par terre. Donc bonne suite de festival, ça vient à peine de commencer, ça continue demain et bonne soirée à vous. Merci Laurent encore.
Merci.